un petit peu rapidement. Mais donc ça veut dire que c'est la technologie qui nous permet aujourd'hui d'envisager d'aller plus loin encore que ce qui avait été fait.
Tout à fait. Ce sont vraiment ces nouvelles technologies, ces nouveaux moyens qui nous offrent de nouveaux documents qui n'étaient pas du tout accessibles auparavant. Si on n'a jamais pu repérer ces fissures qui apparaissent dans les images de la tombe de Tutankhamon, c'est que ces parois du caveau sont recouvertes de peinture polychrome qui masque d'une certaine façon la vision de ces défauts dans la paroi. Mm-hmm. Et effectivement, les images produites par ce scanner 3D nous permettent d'éliminer d'une certaine façon, virtuellement en tout cas, cette polychromie, et donc de voir des choses qui n'étaient pas visibles auparavant.
Alors, je reviendrai à vous dans un instant, Laurent Bavet, mais je me tourne vers Luc Delvaux et Isabelle Terrasse pour cette exposition Sarcophage sous les étoiles de Nout. La technologie, elle vous est évidemment d'un grand secours, c'est un apport essentiel aujourd'hui pour la recherche, mais aussi pour la restauration. Luc Delvaux.
Mais ça fait partie justement de tout ce qui reste à faire en égyptologie, parce qu'on a depuis longtemps pratiqué une égyptologie, je dirais, qui était un peu en surface des objets. Et maintenant, il y a une égyptologie qui rentre dans les objets, dans la manière dont ils ont été fabriqués, élaborés, pensés, conçus par les anciens Égyptiens. Quels matériaux ils utilisaient, quel type de pigments, quel type de bois mettaient-ils en œuvre, etc. Et donc là, on entre vraiment, grâce aux nouvelles technologies qui sont rarement invasives d'ailleurs, ce sont des technologies par scanner, etc. On rentre vraiment dans l'intimité des objets égyptiens et dans celle des objets égyptiens et dans celle des Égyptiens qui les ont conçus. Et là, ça fait énormément progresser la science, naturellement.
Alors, au niveau technologie, il faut quand même dire cette initiative qu'il y a dans l'exposition qu'on peut voir actuellement au cinquantenaire, dans la dernière salle, en réalité, il y a des restaurateurs, restauratrices aussi, puisque c'est que j'ai vu, les trois femmes, donc voilà, qui travaillent sur des sarcophages derrière une vitre avec toute une série d'appareillages. Ça ressemble presque à une salle d'opération chirurgicale, un petit peu, et qui travaillent là-dessus, et on voit leur travail. C'était indispensable de faire ça, Isabelle Terrasse, pour montrer aussi au public qui a visité tout cela, ce qui est fait effectivement à côté de ces expositions et de ces musées.
Oui, et puis c'est une manière aussi de mettre en exergue et de mettre en avant le merveilleux travail des restaurateurs. Et pour abonder dans le sens de Luc il y a un instant, les cercueils qui vont être en fait restaurés dans ce laboratoire, ce sont des cercueils qui ont déjà été restaurés au 19e siècle quand ils sont arrivés chez nous au musée, à la fin du 19e, mais qui ont été tellement sur-restaurés que le but aujourd'hui, c'est de retrouver l'original. Et c'est la technologie d'aujourd'hui, du 21e siècle, qui nous permet de retourner dans le passé et de retrouver ce que les Égyptiens ont réellement voulu faire. Et ça, c'est aussi une belle aventure. Et c'est un beau pont entre les années, les siècles, les millénaires.
Exactement. Et dans ce laboratoire de la restauration, donc c'est la restauration en cours de cercueils de prêtres, c'est ça, de Deir el-Bahari, c'est ça, c'est la deuxième, ce qu'on appelle la deuxième cachette de Deir el-Bahari. Voilà. C'est une histoire aussi qui montre que tout le monde n'avait pas non plus la même conception des recherches archéologiques. Ce sont des archéologues français, je pense, dans la fin du 19e, qui étaient tombés sur cette...
En fait, ce ne sont pas les archéologues eux-mêmes qui sont tombés sur cette cachette, ce sont des...
Ça aurait été mieux si ça avait été des archéologues.
Ils sont intervenus, mais pas de manière très positive.
Non.
Donc, cette cachette a été découverte par des inspecteurs du service des antiquités de l'époque, des inspecteurs égyptiens, qui étaient en réalité des pilleurs de tombes recyclés dans l'archéologie officielle, et qui ont mis alors sur la piste de cette cachette les archéologues français qui à l'époque dirigeaient le service des antiquités et le musée du Caire. Et on est même pas 30 ans avant la découverte de la tombe de Toutankhamon, qui en 1922 a fait l'objet d'une fouille mais extrêmement scrupuleuse de la part d'Howard Carter et de son équipe. On est même pas 30 ans avant, et cette immense tombe qui contenait près de 450 cercueils, c'est quelque chose de gigantesque, a été vidé en même pas une semaine de temps, sans qu'aucun plan soit dressé, pas de photos, mais l'époque ne s'y prêtait pas, mais enfin sans aucun relevé, etc. Et donc c'est un peu une catastrophe archéologique, et l'étude des cercueils qui est en cours aujourd'hui avec leur restauration au musée vise un petit peu à reconstituer, à rebours en quelque sorte, le contenu de cette cachette, dont le contenu a été dispersé entre une trentaine de musées dans le monde à la fin du 19e siècle, dont le musée de Bruxelles.
Alors, un commentaire de Bertrand sur notre site qui dit: L'antiquité égyptienne est sans doute plus facile à saisir par le grand public que d'autres civilisations chinoises, précolombiennes ou arabo-musulmanes, parce qu'elle a gardé intactes ses réalisations pendant des millénaires, écrit Bertrand. On est toujours en terrain familier pour ce qui est de l'iconographie en tout cas, parce que, ajoute-t-il, je doute fort que la cosmogonie, la religion, les us et coutumes de l'Égypte ancienne soient bien connus du plus grand nombre, qui sans doute informé, oublie aussitôt, envoûté qu'il est par la puissance et la singularité de l'art égyptien. Voilà ce que nous écrit Bertrand à l'instant sur notre site du forum. Une réaction peut-être
Oui, mais l'art égyptien et les artefacts, tout ce que nous ont laissé, en fait, les Égyptiens de l'époque pharaonique, continue à passionner les foules et tous azimuts, je dirais, tous les âges confondus et tous les niveaux de connaissances confondus. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que dit votre auditeur, à savoir que on n'est pas confronté à des petits tessons de poterie, des choses de ce genre. On est vraiment confronté aux objets de la vie quotidienne. Alors, il faut bien être clair, la plupart des objets qu'on retrouve, ils ont été retrouvés dans des tombes. Et donc, ils ont été destinés à la vie éternelle. Ce ne sont pas toujours les objets qu'on a réellement utilisés dans la vie courante. Mais ils reflètent, bien entendu, la vie quotidienne des Égyptiens. Évidemment, surtout des classes les plus aisées qui pouvaient s'offrir ce genre de mobilier funéraire.
Et mais comme pardon, je vous interromps, mais vous montrez aussi que pour les classes moins socialement favorisées, il y avait des cercueils, alors qu'ils n'étaient pas dans les matières et décorés comme les autres, mais vous qui étaient prévus également.
Oui, c'est une autre spécificité. Dans l'exposition, on présente plusieurs sarcophages en terre cuite qui sont très méconnus.
On n'a jamais, enfin,
non,
jamais
non,
vu.
Non, hein. Mais simplement parce qu'il faut replacer pour reparler de la fin du 19e et du début du 20e où on a commencé vraiment à fouiller activement l'Égypte. Bien entendu, les archéologues et les égyptologues se sont aussi concentrés sur ce qu'il y avait de plus beau à l'époque. Et donc, ils se sont concentrés essentiellement sur les cercueils en bois, sur les sarcophages en pierre. Et ils ont délaissé un petit peu les cercueils en terre cuite qui étaient moins décorés ou pas du tout. Maintenant, il faut savoir aussi qu'il y avait une partie de la population qui n'avait pas de cercueil du tout. Ils étaient simplement enterrés dans une fosse dans le sable avec quelques objets personnel. Mais ce que je voulais, pour terminer ce que je disais tout à l'heure, ça signifie que grâce au climat de l'Égypte, tous les matériaux, même organiques, se sont conservés. Ce qui veut dire que quand on trouve le contenu d'une tombe qui est entier ou presque entier, on va y retrouver des meubles, on va y retrouver des vêtements, on va y retrouver des perruques, on va y retrouver des bijoux, on va y retrouver de la nourriture. Tous objets que l'on voit par ailleurs représentés sur les scènes qui décorent la tombe. Et donc ça permet de faire un lien entre les deux et ça donne l'impression qu'on plonge vraiment dans la vie des gens de l'époque. Alors les gens s'attachent d'abord à la vie des gens de l'époque. Et puis évidemment, il y a l'aspect monumental de l'architecture, il y a l'or, il y a évidemment toute cette religion hyper compliquée. Et là, évidemment, c'est une deuxième phase, c'est une deuxième étape que de plonger alors dans ce contenu-là.
Je reviens à vous, Laurent Bavet. Je rappelle, vous êtes belge, vous êtes professeur d'archéologie égyptienne à l'ULB, mais vous dirigez depuis le mois de juin, et pour 4 ans, cet Institut français d'archéologie orientale du Caire. En quoi consiste exactement le travail que vous allez faire et que vous faites déjà depuis quelques mois sur place?
Alors, l'Institut français d'archéologie orientale, donc l'IFAO, est une mission permanente de la France, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui est basée au Caire et qui mène des recherches archéologiques, des programmes de recherche sur l'Égypte, depuis l'Égypte, pas seulement pharaonique, mais depuis la préhistoire, l'apparition d'hommes, jusqu'à l'époque arabo-islamique, en gros jusque 1952 à peu près. Et donc concrètement, il y a actuellement 27 fouilles archéologiques sur lesquelles l'IFAO est présente à travers tout le territoire, dans les déserts, dans la vallée du Nil, dans le delta. Et par ailleurs, des programmes de recherche qui sont conduits au Caire par les chercheurs de l'Institut et généralement en collaboration, soit avec des universités françaises ou étrangères.
Un mot encore, on parlait tout à l'heure des recherches donc pour la tombe de Néfertiti, mais il y a aussi ce dont on parle beaucoup, c'est l'exploration des pyramides. Est-ce que l'Institut est impliqué dans cette campagne qui a été lancée et donc qui est une mission en fait internationale Scan Pyramids, qui est portée à la fois par des ingénieurs et par une fondation dans laquelle se trouve le Belge François Schutten, d'ailleurs, HIP, donc pour héritage, innovation, préservation, entrée dans la pyramide pour voir ce qui s'y passe, je suppose. Est-ce que votre institut est impliqué là-dedans également?
Alors non, l'IFAO n'est pas directement impliqué dans ce projet. L'initiative du projet revient à cette ONG HIP que vous avez mentionné, qui est à la base composée d'ingénieurs, de chercheurs venant d'associations, donc de technologies extrêmement pointues, de radars ou autres techniques mises au service de l'archéologie.
Alors évidemment, ce sont des recherches qui viennent d'être lancées, sur lesquelles on aura certainement l'occasion de revenir. Mais je vous remercie, Laurent Bavet, d'avoir été avec nous, évidemment, pour nous expliquer un petit peu ce que vous faisiez sur place. Et j'espère qu'on pourra recompter sur votre participation à une prochaine émission. Je voudrais juste terminer notre forum en redisant encore, à propos de cette exposition au cinquantenaire, donc sarcophage sous les étoiles de Nout. Alors, pourquoi sous les étoiles de Nout? Nout, c'est une déesse, évidemment.
C'est la déesse du ciel, c'est la déesse de la voûte céleste, qui est à la fois la voûte céleste diurne et nocturne d'ailleurs. Et dans un des mythes principaux qui concerne les cycles et la renaissance égyptienne, le soleil est avalé chaque soir par la déesse Nout et remis au monde par elle le matin après avoir traversé pendant la nuit son corps semé d'étoiles. Et donc c'est vraiment une déesse qui est une espèce de vecteur de la renaissance du défunt et qui est peinte sur les intérieurs des couvercles des cercueils, faisant le pont comme ça au-dessus du mort qui va assimiler au soleil, traverser son corps pendant la nuit.
Et dans l'exposition, elle est sur un plafond aussi.
Voilà, tout un plafond, et le visiteur se trouve un petit peu à la place du défunt dans
son cercueil. Alors justement, il y a 12 salles pour les 12 heures de la nuit, pour les 12 heures que dure le trajet du mort. Donc vous parliez tout à l'heure, Isabelle Terrasse, de la scénographie tout à l'heure, il y a longtemps, quand on a commencé l'émission. C'est vrai qu'il y a cette adéquation entre la scénographie et le contenu de l'exposition et le propos de l'exposition, et ça c'est très très impressionnant.
Oui, et là on a rencontré quelqu'un, Pascal Gastou, qui a vraiment compris le scénario de base et qui a su vraiment le mettre en image et mettre les pièces en valeur, donc ça c'est un plus évidemment, un fameux plus même. Et donc effectivement il y a 12 salles et ces 12 salles correspondent aux 12 heures de la nuit, les 12 heures que le soleil va devoir traverser à travers le corps de Nout. Et l'idée de départ, l'idée du scénario, c'est de faire un parallèle entre ce trajet quotidien pendant les 12 heures de la nuit du soleil, qui de toute façon va renaître le lendemain, puisque la déesse Nout, c'est une déesse, par principe. Donc elle ne va pas mourir, il ne faut pas s'inquiéter. Et donc, on fait le parallèle dans l'exposition entre ce parcours du soleil et le parcours du défunt, qui espère revivre de la même manière chaque jour, grâce à la déesse Nout. Et donc l'idée a été de partir des funérailles. La première salle présente 4 pleureuses, qui étaient toujours présentes lors des funérailles. Se termine avec l'arrivée au royaume d'Osiris, c'est l'arrivée dans l'éternité, dans le royaume des morts. Et entre les deux, vous avez 10 salles, dont le labo, une présentation des scans des momies, et puis une présentation chronologique des rites funéraires et à travers les sarcophages et les cercueils qui sont présentés.
Alors oui, c'est ça, c'est une évolution des arts et des rites de la mort pendant 3000 ans de l'histoire égyptienne. Luc Delvaux, des rites, oui, qui ont relativement peu évolué au cours de 3 millénaires.
Très peu, voire quasiment pas en fait. Simplement la forme des cercueils, la forme que c'est, la mise en image et la mise en texte de ces rites a, elle, par contre, très fort évolué. Et on voit très bien ça dans l'exposition, c'est qu'on part tout au début de l'histoire de cercueils qui sont absolument dépourvus de décors ou d'inscriptions, sont les plus anciens qui sont exposés. Et petit à petit, ce décor va en se complexifiant toujours davantage, des textes apparaissent, des images de divinités, et pour aboutir à des cercueils comme ceux qui sont en cours de restauration, notamment, et puis les cercueils plus tardifs encore, qui sont finalement des véritables traités de théologie, dont toutes les paroisses sont décorées de représentations de divinités et qui expliquent de manière de plus en plus analytique les modalités d'accession du défunt au monde des morts. Et donc, c'est ça qui est aussi tout à fait passionnant dans cette expo, enfin, ce qui nous a donné beaucoup de plaisir à la montée, c'est que finalement, c'est vraiment plongé dans tous les systèmes de pensée des anciens Égyptiens sur l'au-delà, et dans une véritable philosophie de l'existence, finalement, qui s'exprime à travers les décors des cercueils, et que, en principe, que les visiteurs doivent arriver à pénétrer grâce à l'exposition.
Et vous avez parlé il y a un instant de la première salle où il y avait, qui s'ouvre sur des petites figurines de pleureuses, les pleureuses égyptiennes qui faisaient partie du cortège funéraire et qui sont des petites figurines très modestes en réalité, mais qui disent beaucoup sur l'importance évidemment de toutes les étapes et de tous les éléments qui font partie du rite funéraire.
Si, c'est une des choses qu'on essaie de mettre en évidence dans l'exposition aussi, c'est de ressortir des réserves des objets qui échappent un petit peu aux catégories classiques de l'art égyptien. Isabelle parlait des cercueils en terre cuite tout à l'heure, ce sont des choses qui n'ont jamais été montrées.
Jamais.
Ces petites pleureuses en terre cuite sont bouleversantes par leur attitude expressionniste comme ça, leur gestuelle de deuil. Ce sont des statuettes tout à fait étonnantes dans l'art égyptien qui sont très rares. Et voilà.
Et qu'il faut profiter qu'elles soient exposées.
L'objectif aussi étant de changer un petit peu l'image classique que l'on peut avoir de l'art de l'Égypte ancienne.
Exactement, et nous allons certainement en reparler. Oh, c'est jusqu'au 20 avril au musée du cinquantenaire sarcophage sous les étoiles de Nout. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Midi Première va continuer avec le journal de 13h. La Première.